La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Demain et mercredi sera organisé au Centre Pompidou à Paris un colloque consacré à l'intelligence des villes et à la nouvelle révolution urbaine, l'occasion de comprendre comment justement les villes sont en train de se transformer dans un contexte de crise économique et environnementale et quel serait demain un véritable modèle de ville intelligente. C'est le dossier cet après-midi de l'émission avec le philosophe Bernard Stiegler et l'ingénieur et sociologue Pierre Vels qui réfléchissent à la façon de penser la ville et le territoire. Ils sont mes invités dans un instant et ils répondent à vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Axel ?
On part visiter une exoplanète, Mathieu, une planète si proche de son soleil qu'elle fond à vue d'œil. Elle perd 10 000 tonnes de gaz par seconde. On se réchauffe donc autour de Gliese 3470, c'est son nom, dans un instant.
Et c'est Fanny Bouillon qui réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'intelligence des villes et la nouvelle révolution urbaine, c'est donc le dossier dans un instant avec vous Bernard Stiegler et Pierre Vels. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Bernard Stiegler. Qu'est-ce qu'il faut entendre lorsqu'on a envie de parler justement de villes intelligentes ?
Alors c'est un sujet à la mode sous le nom de Smart City. Qui a été promu depuis une quinzaine d'années par deux grandes entreprises américaines, IBM et Cisco Systems en particulier. Quant à moi, je considère que il y a une intelligence des villes, une intelligence urbaine qui remonte au néolithique et que si nous voulons comprendre les enjeux de ce que nous décrivons donc dans ce colloque comme une nouvelle révolution urbaine produite par les smart cities, mais pas seulement par les smart cities, par des grandes transformations de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle industrie du bâtiment. Le fait que, par exemple, les matériaux de construction vont être de plus en plus pucés, producteurs d'informations, etc. Eh bien, il faut lire les archéologues du néolithique, il faut lire Jean-Pierre Vernant, il faut lire Henri Lefebvre, voilà, qui sont des penseurs de la ville depuis de longues dates. Et en particulier, Vernant et Lefebvre ont montré que l'intelligence dans laquelle nous vivons, nous, aujourd'hui, disons l'intelligence qui a trouvé son origine en Occident, et c'est produit dans les villes, et que c'est une forme très différente, par exemple, de l'intelligence forestière ou de l'intelligence agricole. Ça ne veut pas dire qu'elle est supérieure ou inférieure, mais elle est différente, et il y a une grande transformation qui s'opère sur ce plan en ce moment.
Pierre Vels, est-ce que cette ville intelligence s'intéresse autant aux technologies qu'aux humains qui vont l'habiter, alors?
Je crois que l'intelligence des villes, c'est d'abord l'intelligence des habitants des villes. Les habitants, d'ailleurs, aussi ceux qui passent dans les villes, hein, pas seulement les fixes, mais aussi les nomades, les sédentaires, dans les villes. On a un grand paradoxe aujourd'hui, c'est que malgré la montée du numérique, etc., les villes continuent à se densifier. Au fond, il y a une... Parce que l'intelligence des villes, elle existe quand les gens se parlent dans les villes. Les villes sont les lieux de frottement, sont les lieux d'échange, et on voit bien que plus elles sont diverses, plus elles sont créatives et productives. Hein. Dans les villes, 1 plus 1 égale 3, y compris en termes macroéconomiques. Alors l'exemple de ville intelligente, moi, que je prendrais, sans remonter au néolithique comme Bernard, c'est Je pensais au magnifique livre de Bruno Bellos sur Paris savant, Paris au 18e. Avant que les gens rentrent dans des cases, il y avait la science sévère et puis la science amusante qui était encore mélangée. Et au fond, on voit que c'est la ville qui est la machine d'apprentissage.
Eh bien, on a plein de choses à se dire dans quelques minutes ensemble avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent donc aujourd'hui sur le site de l'émission pour parler donc de ces futures villes intelligentes. Elles le sont même peut-être déjà. Et vos messages donc sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel, à la une de la science aujourd'hui, on parle d'une drôle d'exoplanète.
Oui, elle s'appelle Gliese 3470 et elle a de quoi nous intriguer, Mathieu. Parmi les 4000 exoplanètes découvertes à ce jour, elle fait partie du cercle très fermé des 20 dont on peut étudier l'atmosphère facilement. Et c'est en observant cette atmosphère avec le télescope Hubble qu'on s'est rendu compte qu'elle s'évaporait littéralement. Elle perd 10 000 tonnes de gaz par seconde et devrait finir sa vie complètement sèche. Pour en parler, nous sommes en studio avec un des chercheurs qui publie ce travail, Alain Le Cavalier des Étangs. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche pour le CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors pourquoi cette planète fond-elle et comment est-ce que vous en êtes rendu compte ?
Alors elle fond tout simplement parce qu'elle est très proche de son étoile. Elle tourne en 3 jours autour de son étoile quand la Terre met 1 an à faire le tour du Soleil. Donc elle est très très proche, 1/30 de la distance Terre-Soleil de son étoile. Et c'est la raison pour laquelle elle perd de son gaz. Finalement, c'est un apport d'énergie, l'énergie de l'étoile sur la planète. Et il y a une compétition entre la gravité qui retient le gaz et l'énergie apportée par l'étoile.
Surtout qu'elle est plus grosse que la Terre et qu'elle rapetisse seconde après seconde. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Oui, alors elle a perdu probablement depuis les 2 milliards d'années qu'elle s'est formée. Elle a perdu peut-être à peu près 1/3 de sa masse. C'est pas considérable, mais c'est suffisant quand pour même, imaginer.
Pas mal, ouais.
Oui, si vous faites une cure d'amaigrissement, que vous perdez 1/3 de votre masse, c'est un succès.
Oui, c'est vrai.
Mais voilà, donc c'est finalement l'analogie est très bonne parce que ça montre que c'est suffisant pour éventuellement changer la nature de cette planète. Mm-hmm. Parce que là, on a affaire à une planète typiquement de la nature des planètes comme Uranus ou Neptune. C'est une planète qui fait 14 fois la masse de la Terre. Mais il y a entre ces planètes de masse intermédiaire, il y a les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, 300 fois et 100 fois la masse de la Terre, et puis il y a les planètes telluriques. Donc là, on est dans une gamme de masse tout à fait intermédiaire, et on avait observé depuis quelques années qu'il n'y avait pas de planètes de masse intermédiaire très proches de leur étoile. C'est ce qu'on a appelé le désert de planètes, parce qu'il y avait un désert de planètes dans un diagramme où on trace la masse et la distance de la planète à son étoile. Et donc l'absence de planètes de ce type restait une énigme. Et l'observation de cette évaporation, échappement quasi catastrophique, nous a permis de comprendre probablement un des mécanismes clés qui explique ce désert de planètes.
Alors quand j'ai dit tout à l'heure qu'on la voit fondre sous nos yeux, c'est pas complètement vrai. Qu'est-ce que vous voyez avec les images du télescope Hubble concernant cette planète ?
Alors nous n'avons pas d'image en réalité, j'ai pas de splendide photographie à vous montrer. Ce que nous faisons, c'est de la spectroscopie. Nous analysons la lumière de l'étoile au moment où la planète passe devant. Et quand la planète passe devant, une partie de la lumière de l'étoile a traversé les couches atmosphériques et elle donne une empreinte, une signature de ces couches atmosphériques dans la lumière que nous analysons avec des spectrographes. Donc ce qu'on a vu, c'est un énorme nuage d'hydrogène qui cache une surface équivalente à 1/3 de la surface de l'étoile. Donc c'est un énorme nuage d'hydrogène, et on a pu mesurer sa vitesse. Et la combinaison des deux informations, la taille du nuage et la vitesse, nous permet de conclure au taux d'échappement une perte de gaz de 10 000 tonnes par seconde.
On connaît d'autres planètes qui subiraient ou auraient subi le même sort, peut-être dans le système solaire ?
Alors dans le système solaire, non, parce que les planètes sont beaucoup plus loin. Même Mercure met plus de 80 jours à faire le tour du Soleil. Mais on connaît d'autres planètes dans les systèmes extrasolaires. On connaît d'autres planètes qui perdent du gaz. On en connaît une qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années. Mais elle perd à peu près la même quantité de gaz, à peu près 10 000 tonnes de gaz par seconde. Mais il s'agit d'une géante gazeuse, de la masse de Jupiter typiquement. Et là, le réservoir de masse est suffisant pour pas que ça ait d'impact. Et on connaît aussi une autre planète de type Neptune qui perd aussi du gaz, mais là c'est 100 fois moins. Et donc, à nouveau, pas d'impact majeur sur la nature de la planète. Là, c'est la première fois où on voit une évaporation quasi catastrophique qui a un impact sur la nature de la planète.
Alors, ça fait pas très très longtemps qu'on étudie les exoplanètes en détail comme ça. Est-ce que, avant de le faire, on imaginait qu'une planète puisse avoir une histoire de vie comme ça, c'est-à-dire qu'elle commence gazeuse et elle termine tellurique ?
Non, c'est peut-être un des succès de ces 20 dernières années de découverte d'exoplanètes, c'est la compréhension de l'évolution des systèmes planétaires. Il y a encore 20 ans, on imaginait que les planètes se formaient en même temps que leur étoile, et puis que le système était figé pour l'éternité jusqu'à la fin de vie de l'étoile, et que ça bougeait pas, comme dans le système solaire. En réalité, on réalise que au cours de la vie de l'étoile, les systèmes planétaires évoluent, et les planètes peuvent changer de nature dans la durée de vie de l'étoile.
Oui, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on étudie en détail une exoplanète, on découvre de la diversité en plus qu'on n'avait pas imaginé.
Oui, je crois que vous avez utilisé exactement le mot-clé qu'il fallait, le mot « diversité ». On connaît près de 4000 exoplanètes aujourd'hui. Il n'y en a aucune qui ressemble peu ou prou au système solaire, et aux planètes du système solaire. Et finalement, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle planète, elle est surprenante et elle est différente des autres. Et donc, le mot-clé, c'est la diversité. Et ça nous permet évidemment de découvrir de tas de choses inattendues.
On peut estimer sa durée de vie encore, là, aujourd'hui?
Alors, elle va probablement perdre un peu de masse encore, mais au bout d'un moment, elle va changer de nature. Et quand le gaz sera échappé, il restera plutôt les éléments lourds, plutôt le noyau rocheux qui est au cœur. Mmh. Et là, le taux d'échappement baissera. Donc, en fait, quand elle atteindra le stade tellurique, là, elle ne bougera plus, en quelque sorte. Ça sera un résidu, ce qu'on a appelé les planètes ptoniennes, c'est-à-dire les planètes résidus d'évaporation.
Belle découverte, en tout cas. Merci beaucoup, Alain, le cavalier des étangs. C'était passionnant. Et Axel, on se retrouve demain pour une nouvelle une. Et
oui, à demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la COP24 qui vient de se terminer en Pologne, sauve l'accord de Paris, mais ne fait guère plus. La 24e conférence des Nations Unies pour le climat a finalement abouti à un accord samedi soir. La notice pour l'application de l'accord de Paris a été adoptée, mais le reste du bilan reste très décevant. La prise en compte des droits humains et des pays pauvres face aux risques climatiques n'a pas abouti. Même le dernier rapport du GIEC a reçu une approbation réticente. La prochaine COP se tiendra l'an prochain au Chili. La maladie d'Alzheimer pourrait être transmissible, mais attention, certainement pas contagieuse. C'est une étude sur la souris qui confirme que les plaques amyloïdes, ces amas de protéines responsables de la maladie, peuvent être déplacées d'un cerveau à un autre et causer donc de nouveaux dommages. Ces résultats confirment une étude de cohorte parue en 2015. Le transfert est dit actif et n'est possible que dans certains cas très particuliers de traitement ou de chirurgie. Les chercheurs anglais à l'origine de ces travaux appellent à une rapide prise en compte de leurs résultats dans les protocoles pharmaceutiques et hospitaliers. Et puis pour terminer, la très vieille plainte d'un consommateur mésopotamien, une tablette d'argile datée de 3800 ans, découverte dans l'ancienne cité de Ur en Irak actuel, relate la colère d'un homme nommé Nani. Il se plaint de son fournisseur qui n'aurait pas livré la bonne quantité de cuivre durant sa tournée. La traduction réalisée à partir de l'acadien cunéiforme fait de cette tablette de 10 cm par 5 la première trace d'un service après-vente 1700 ans après Jésus-Christ. Allez, on parle des villes intelligentes dans un instant. 23 minutes, c'était Radio Elvis.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, comment penser la ville de demain dans le contexte des crises économiques et environnementales qui traversent justement aujourd'hui nos sociétés? Comment imaginer le modèle de ville du futur? Eh bien, demain et mercredi, le Centre Pompidou accueille justement un colloque autour de l'intelligence des villes et de cette nouvelle révolution urbaine. On va essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est le dossier de l'émission pour voir aussi comment la ville peut relever les défis que lui impose notre humanité. Pour en parler, Bernard Stiegler, vous êtes avec nous, philosophe, professeur à l'université de Compiègne et donc directeur de l'IRI, l'Institut de Recherche et d'Innovation du Centre Georges Pompidou. Et vous venez de publier « Qu'appelle-t-on penser ?» Penser P-A-N-S-E-R aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et puis Pierre Veltz, vous êtes ingénieur et sociologue, spécialiste de la ville. Vous avez reçu l'année dernière le Grand Prix de l'urbanisme. Et vous avez publié également il y a un an « La société hyper-industrielle au seuil », livre qui a reçu le Grand Prix du livre d'économie. Et on parle donc de la ville intelligente avec nos auditeurs qui nous rejoignent avec toutes les questions et peut-être même les témoignages sur le site de la tête au carré franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Bernard Stiegler, comment est née l'idée justement de ce colloque, donc demain et mercredi, sur l'intelligence des villes?
En fait, il est lié à un programme que je conduis au sein de l'Institut de Recherche et Innovation avec Patrick Brauzec, le président de l'établissement public territorial Pleine Commune, donc en Seine-Saint-Denis.
Ouais.
9 communes, 400 et quelques milliers d'habitants.
On va en reparler hein, tout à l'heure, évidemment.
Ouais. Un territoire en pleine transformation qui se transforme d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, même plus qu'une vingtaine d'années, qui se transforme énormément, qui était un petit peu le berceau de l'industrie en région parisienne. D'ailleurs, à Saint-Denis, autrefois, c'était là où il y avait les grandes usines du 19e siècle. Voilà, qui s'est totalement transformé autour du Stade de France, à tout le monde on a entendu parler plus ou moins, on l'a vu.
Ouais. Mais qui continue encore
mais qui
continue
à se transformer, qui va beaucoup se transformer dans les
ça fait 40 ans.
Oui, ça fait 40 ans. Ouais. Et ça va continuer encore pendant au moins 10 ans ou 20 ans. Pourquoi? Parce que outre le Grand Paris Express qui évidemment traverse ce territoire et il produit un certain nombre d'effets, il y a les Jeux Olympiques, voilà. Et dans ce contexte-là, nous menons une expérimentation territoriale avec le territoire de pleine commune, avec des entreprises, avec des associations, avec beaucoup de partenaires, avec le soutien aussi de la Caisse des dépôts et consignations, qui a pour but de réinventer une intelligence urbaine. Voilà, ce que j'appelle moi le nouveau génie urbain.
Oui.
Sachant qu'il se produit une nouvelle révolution urbaine. Alors, qu'est-ce que j'entends par nouvelle révolution urbaine? Je prétends que c'est la troisième. Disons que pour moi, il y a eu deux grandes révolutions urbaines qui se sont produites. La première qui a été nommée...
Le néolithique, est-ce que ça en fait partie?
Oui, qui se produit au néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation et l'urbanisation primitive, si je puis dire. C'est un archéologue australien, Child, qui avait théorisé, qui avait écrit un livre qui s'appelle La Révolution Urbaine. Il y a une deuxième révolution urbaine qui se produit, selon nous, disons à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, d'abord en Angleterre avec l'apparition des usines, les chemins de fer, ensuite les gares, etc., vont très profondément transformer les tissus urbains. Et nous posons qu'il y a maintenant une troisième révolution urbaine qui est en cours, elle commence, on pourrait dire, voilà. Ouais. Mais elle devient quand même très patente, voilà, très tangible et avec des enjeux extrêmement importants qui sont aussi des enjeux d'une nouvelle économie urbaine, d'une nouvelle époque de l'économie hyper industrielle, puisque là on est vraiment dans une transformation de ce que nous appelons Pierre Veltz et moi-même la société hyper industrielle, l'économie hyper industrielle.
Ouais, on va définir ça également ensemble dans
sachant
un instant.
Que des métiers qui n'étaient pas industriels, comme par exemple le bâtiment, sont en train de devenir et ça a des conséquences considérables, mais c'est aussi des conséquences considérables sur la vie des habitants, sur la démocratie, etc.
Pierre Veltz, alors cette révolution urbaine, on est vraiment dedans aujourd'hui, le terme n'est pas usurpé du tout?
Oui, enfin, moi je compte moins les révolutions, je pense qu'on a des processus de transformation assez continus.
Sur le long cours, on voit la 40
avec,
ans.
Avec des périodes quand même de mutation très fortes, et il est incontestable qu'on est dans une période de mutation de ce type-là.
Alors qu'est-ce qui caractérise justement cette période-là que nous vivons en ce moment, dont on n'est pas forcément d'ailleurs conscient dans nos usages, mais qu'est-ce qui fait la nature de cette révolution aujourd'hui-là?
On voit beaucoup évidemment les technologies, c'est sûr que le smartphone par exemple tout bêtement a transformé notre façon de vivre en ville, et puis la France, et évidemment le cerveau réparti de l'informatique, là je change les choses. Mais il y a d'autres changements dans ce que moi j'appelle l'hyper-industrie. Tu utilises ce terme également. Par exemple, si vous regardez les secteurs qui se développent le plus aujourd'hui, hein, c'est quoi ? C'est la santé, le bien-être, c'est l'alimentation en tant que bien-être, c'est la mobilité, c'est l'éducation, c'est le divertissement. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la ville ?
Oui.
Eh bien, c'est que on voit qu'on est en train de changer en même temps d'économie et que cette économie aujourd'hui elle est centrée complètement sur les individus. On sort d'une économie alors qui s'est traduite dans les villes, mais pas seulement. Qui était une accumulation extraordinaire d'objets, voyez, avec derrière une industrie qui était organisée sur le mode de l'industrie de masse. Et on a essayé d'ailleurs d'appliquer cette industrie de masse à la fabrication de la ville. Hein. Le Corbusier dont vous parlez est un peu représentatif de ça, bien qu'il faille nuancer toujours quand on parle.
On va l'écouter dans un instant, oui. On pourra réagir justement.
Mais vous voyez, aujourd'hui, on sort de cette économie que moi j'appelle garage, salon, cuisine, on accumule des objets, puis la ville aussi, on accumule des objets, on change complètement, parce qu'aujourd'hui, regardez le problème de la mobilité, on va être concret. Et évidemment, la question, on parle beaucoup des voitures autonomes, hein, des voitures qui roulent toutes seules, la Google Car, on parle des voitures...
On n'y est pas encore. Hein.
Ça commence, ouais. Il y a des gros investissements. On parle des voitures connectées, ça c'est très important, parce que quand vous êtes assis dans votre voiture, on collecte énormément d'informations sur vous, voilà. Et donc ça intéresse directement, évidemment, les GAFA. Mais le vrai changement, au fond, c'est pas ça. Le vrai changement, c'est que c'est de concevoir aujourd'hui la mobilité et pas seulement les objets. La mobilité comme un service. Ce qui vous intéresse, vous et moi, ce qui intéresse les citadins, c'est d'aller d'un point A à un point B et donc d'utiliser toutes les possibilités d'organiser les choses.
Voyez, on va écouter Le Corbusier, justement. Au sujet de la mobilité, précisément, et vous pourrez réagir à ses propos, parce qu'il dit beaucoup de choses qui nous concernent encore aujourd'hui. Et là, c'était en 1951.
Il y a la destination des routes qui est fixée, d'une part, et d'autre part, la raison d'être de l'automobile. Eh bien, je dis tout à craque, et afin de ne pas abuser des minutes de la TSF, que l'évolution de l'automobile, pour moi, est de cette nature-ci. C'est que l'automobile particulière va devoir quitter la ville et qu'elle sera remplacée par des véhicules à forte contenance, des autobus, des cars, qui transporteront, dans un confort qu'il est très facile de réaliser, les gens comme les transports, par exemple les métros, qui sont un outil exécrable de la civilisation moderne. Tous ces problèmes de parking et de circulation à l'intérieur des villes et de non-stationnement le long des voies, mais c'est toute la réforme des villes et leur refonte, leur reconstruction, on n'y coupera pas.
Voilà, c'est très moderne hein, comme discours, Le Corbusier en 51, Bernard Stiegler. Il faut repenser la question d'être de l'automobile. C'est exactement ce que font les villes aujourd'hui, hein, qui ne cessent de remettre en cause la place de la voiture quand même. Hein.
Oui, et qui constituent ce que j'appelle des exorganismes. J'introduis un néologisme, je vous en demande pardon.
Ça veut dire quoi ?
Ils constituent plus précisément ce que j'appelle des exorganismes complexes. J'essaye de montrer en ce moment que il faut lire les travaux d'un biologiste, Alfred Lotka, qui a posé en 1945 que les êtres humains sont des êtres inachevés. Bon, ça, ce n'est pas original, on l'a posé bien avant lui, mais Herder, déjà au XVIIIe siècle, le posait. Mais il dit que ces êtres-là évoluent à travers leurs organes artificiels. Mmh. Et leurs organes artificiels ne fonctionnent pas indépendamment d'autres organes artificiels portés par d'autres individus. Et donc, ils doivent se rassembler alors dans des formes qui peuvent être la tribu, le village, la ville, l'usine... Et ils constituent ce que j'appelle, moi, des exorganismes complexes. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Et pourquoi je réagis comme ça à ce qu'on vient d'entendre de Le Corbusier? C'est parce qu'une ville, c'est un complexe, précisément, qui évolue. Voilà. Et par exemple, l'apparition de l'automobile dans la ville est un énorme problème, en particulier en Europe. Aux États-Unis, c'est différent, puisque les villes sont beaucoup conçues, en fait, par rapport... Enfin, disons, il faudrait regarder Philadelphie, qui a fermé toutes les lignes de tramway, avec le lobbying aussi de l'industrie automobile. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais en tout cas, la ville, c'est un processus de transformation qui est toujours en train d'évoluer, plus ou moins rapidement, et que ce soit le bidonville, qui est une forme de ville, ou que ce soit Manhattan et le centre d'une mégalopole comme New York. Ce que nous pensons, nous, c'est que ces questions aujourd'hui sont en train d'être complètement transformées par le numérique. Pourquoi ? Parce que entre le smartphone dont parlait Pierre Valls tout à l'heure, l'automobile connectée, les parpaings qui aujourd'hui commencent à être pucés, Et les robots qui montent des murs, les systèmes, les algorithmes qui gèrent des flux, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ce que certains appelleraient une nouvelle gouvernance de la ville, qui promet beaucoup, mais qui inquiète aussi énormément. Dans ce colloque, nous voulons montrer qu'il pourrait surgir de tout cela une inurbanité numérique.
C'est-à-dire à cause du partage des données, justement, en tout cas.
Disons à cause d'un court-circuit des individus et des groupes, des autorités municipales, par exemple, ou territoriales. Parce que les GAFA, par exemple, qu'est-ce qu'ils proposent? Mais ils proposent de gérer tout ça à distance, en remote control, à l'échelle planétaire. Voilà. Et tout ça, il ne faut pas le rejeter en bloc. Il faut le penser. C'est ça que j'appelle penser avec un A. Penser, pour moi, c'est d'abord prendre soin d'une réalité qui est toujours ambiguë. C'est ce que disait aussi Alfred Lotka. Un organe artificiel, Lotka disait, il peut toujours détruire. Et il peut aussi soigner. Donc il faut faire en sorte qu'il soigne pour éviter qu'il ne détruise.
Donc c'est vraiment la question des technologies au cœur de ces villes aujourd'hui. Pierre Veltz, à nouveau pour rebondir sur la mobilité, puisque vous en parliez tout à l'heure, la question des voitures, parce qu'elle est importante aussi, c'est quelque chose de très concret aujourd'hui. Cette révolution, c'est bien cela sûr, aussi dont il s'agit,
oui,
non ?
Oui, bien sûr, c'est très concret, mais je reviens à mon histoire d'individu. Pourquoi c'est très important ? Parce que vous voyez que entre cette ville complexe dont parle Bernard Stiegler à l'instant, et puis vous et moi, les habitants, les acteurs, les usagers de la ville, il y avait tout un tas de choses intermédiaires et qui étaient dans des organisations bien délimitées. Il y avait le système automobile, vous aviez le choix entre le système automobile et les transports en commun, des mondes, vous voyez, bien séparés. Aujourd'hui, l'individu, on va vers un monde où vous avez une espèce de court-circuit entre l'individu qui est coproducteur, évidemment, dans les domaines que j'ai cités, que ce soit la mobilité, la santé, l'éducation, le divertissement, évidemment. On est coproducteur de sa vie, de son environnement, et on est directement confronté à cette espèce de grand magma. Et donc la question, par exemple, de la mobilité, le sujet aujourd'hui, c'est comment on va pouvoir organiser des systèmes. On a d'un côté l'individu, de l'autre côté des systèmes qui sont de plus en plus complexes et qui utilisent la donnée pour vous fabriquer des capacités de mobilité qui sont intermodes. Voilà, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir passer facilement du vélo, de la trottinette, à la bagnole qui sera dont vous serez plus propriétaire de moins en moins, qui sera loué, qui sera partagé, voilà. Donc on a comme ça une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, dans laquelle les productions d'objets et les productions de y compris d'objets physiques de la ville, etc., vont profondément changer. On va aussi vers une forme de déspécialisation. Regardez l'immobilier, par exemple. On savait ce que c'était, une usine, un centre commercial, un bureau, un logement. Regarde, tous les nouveaux produits qui sortent sont des produits qui mélangent tout ça. C'est des produits de plus en plus déspécialisés. WeWork et WeLive, une start-up américaine, aujourd'hui valorisée à je ne sais pas combien de milliards d'euros, et va être aussi disruptive pour l'immobilier que Uber pour le transport.
Eh bien, nous allons revenir sur la disruptivité dans un instant avec vous, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. On parle des villes intelligentes.
You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie. But they've told me so far. And you show me that life isn't all about extending your time. No, it's the perfect time for a bottle of wine. And why do I still care about all my recall me? For everything dies, so does memory. And why am I still surprised? Part of this grand battle.
But then without all the fur, I wonder would it fit me? What do you think I'd prefer? You know, some people draw to not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We ought to think they aren't smart. It could be something I missed. Right then, she kisses my skin. I don't know.
Cigare, c'était la voix de Tamino.
La tête au carré.
Nous sommes maintenant à Saint-Denis, qui est au centre de ce qu'on appelle Plaine Commune. Plaine Commune, c'est un territoire qui regroupe 9 communes du département de la Seine-Saint-Denis, pour citer les villes les plus connues, La Courneuve, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen. Et je suis avec Michaël Évrard, délégué général de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Plaine Commune. On sait aujourd'hui qu'il y a une quinzaine de centres de données informatiques sur la zone de Plaine Commune. Comment on explique cette concentration ?
Plaine Commune a eu, comme la Seine-Saint-Denis, un parcours industriel assez important. Et dans les années 70-80, ces industries ont fermé et ont laissé des grandes friches disponibles. Ces derniers 4-5 ans, on a vu arriver les très gros data centers qui correspondaient à l'explosion de l'économie numérique et aux besoins de centralisation de données et de transfert de données. Ce sont des structures extrêmement gourmandes en termes d'énergie. Tous les projets du Grand Paris, développement économique, transport, infrastructure, logement, c'est 4000 MW. 800 pour le transport, 1000 pour les data centers. Tout le monde parle du transport, mais personne parle des data centers. 1000 MW, c'est un petit EPR, c'est une grosse centrale nucléaire.
Voilà, Plaine Commune, donc Seine-Saint-Denis, pour parler de l'intelligence des villes et comme un exemple, pourquoi pas, avec mes invités Bernard Stiegler et Pierre Veltz. Alors Bernard Stiegler, expliquez-nous exactement comment vous travaillez, parce que finalement Plaine Commune est presque un laboratoire qui est en train justement en ce moment d'aider à avancer sur cette réflexion.
Alors Plaine Commune, c'est d'abord une communauté de communes, ouais, bien sûr, avec qui gère toutes sortes de questions urbaines depuis longtemps, et qui nous a pas du tout attendu pour exister. Mais en revanche, depuis 3 ans, après un colloque que j'avais organisé au Centre Pompidou, comme celui, ouais, qui aura lieu demain d'ailleurs, sur les conséquences de l'automatisation en matière d'emploi, de macroéconomie, Patrick Borazek, le président de Plaine Commune, m'avait demandé d'en discuter sur en particulier des conséquences sur son territoire. Et nous soutenions, et nous soutenons plus que jamais, qu'il faut comprendre que l'emploi va diminuer inéluctablement, c'est maintenant accepté par l'OCDE, c'est acté comme un fait, mais que ça ne veut pas dire que le travail va diminuer, ça veut dire que la redistribution ne va plus se faire nécessairement à travers l'emploi et l'emploi salarié. Nous posons que dans ce contexte-là, et qui est aussi le contexte de l'anthropocène, c'est-à-dire dans un contexte où il y a un état d'urgence absolu à l'échelle planétaire, vous avez parlé tout à l'heure de la COP24 qui est, ouais, un échec.
Donc l'anthropocène, c'est l'impact de l'activité humaine justement sur la géologie, sur l'environnement,
voilà,
sur la Terre.
Et qui produit toutes sortes de désagrément, de perturbation du climat, de la pollution atmosphérique, de perturbations mentales qui sont extrêmement importantes. On les sous-estime énormément, mais elles sont très très graves. Et beaucoup d'autres questions font que, bah oui, le GIEC par exemple a redit, d'abord le GIEC maintenant dit qu'on atteindra 6 degrés d'augmentation de la température à la fin du siècle s'il ne se passe rien. C'est 4 degrés, puis 3, enfin bon, c'est de pire en pire. Et tous les chiffres...
Et c'est considérable.
Et c'est colossal. Et donc, il est impératif de donner une réponse économique structurante, structurelle aussi, je dirais à cela. Donc, qu'est-ce que nous faisons sur...
Donc, la ville, elle a son rôle à jouer aussi.
Ah ben, un rôle fondamental.
Dans cette situation,
puisque l'émission de carbone et toute la pollution vient d'abord des lieux urbains. Donc, il y a à repenser tout cela en profondeur, mais pas simplement sur le modèle des smart cities, comme par exemple IBM et Cisco le proposaient, c'est-à-dire des bâtiments intelligents. Non, il faut demander à l'intelligence des habitants de se mobiliser, et pour réapprendre, y compris à manger correctement, à élever les enfants correctement. On travaille sur des questions comme ça à Pleine Commune, mais en utilisant les algorithmes aussi pour ça. C'est-à-dire, ne mettant pas, les algorithmes ne sont pas là pour détruire les structures sociales, mais au contraire pour se mettre au service de la reconstruction des structures sociales.
Pierre Veltz, Bernard Sigler disait tout à l'heure, Pleine Commune, pardon, ça fait 40 ans que ça se transforme justement.
Ouais, ouais.
Mais ça veut dire quoi, une ville en transformation permanente comme ça? C'est une ville très plastique qui justement arrive à épouser les changements de société?
Oui, vous savez, la ville physique est extraordinairement plastique. Hein. Pensez au Pont Neuf qui a été construit sous Henri IV, enfin, ou à Paris, à la façon dont Paris a évolué. Donc le sujet, c'est pas tellement la ville physique, c'est la ville humaine, c'est la ville économique, etc.
Et la ville durable aussi.
Oui, alors je vais y venir, mais juste ce que je voulais dire, c'est que des laboratoires, bon, Pleine Commune est un laboratoire passionnant sur beaucoup de sujets depuis pas mal de temps. Ils sont en porte de Paris, donc ils sont aussi entraînés par la transformation de Paris. Mais il y en a beaucoup en France aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on a, on observe aujourd'hui beaucoup d'expérimentations locales sur toutes sortes de sujets, les systèmes de mobilité dont je parlais tout à l'heure, pas seulement l'automobile, vous voyez, hein, beaucoup de sujets autour de l'alimentation, de la santé. La santé, on s'aperçoit aujourd'hui que la santé est un élément clé du fonctionnement des villes et qu'en plus c'est une industrie urbaine, la santé. Vous voyez, les hôpitaux, mais pas seulement. Les villes deviennent aussi, c'est le lieu des problèmes, mais c'est aussi le lieu des solutions. Sur l'environnement, si vous permettez,
oui, bien sûr, oui.
La question de l'anthropocène, etc. Les villes, évidemment, sont en première ligne, parce que c'est là que sont concentrés les habitants, etc. Mais les villes sont plus écologiques que l'habitat dispersé. Vous savez qu'il y avait un merveilleux article qui date déjà un peu, qui expliquait que la ville la plus verte du monde, c'était Manhattan, parce qu'en groupant, on diminue les besoins d'énergie. Le problème que moi je vois, qui est énorme, c'est que la révolution numérique, elle galope toute seule. Enfin, avec les GAFA derrière, etc. Enfin, il y a des moteurs économiques extrêmement puissants. La révolution verte, la transition écologique, comme on dit, elle traîne des pieds, parce qu'il n'y a pas véritablement d'acteurs économiques qui poussent vers ça. Et donc, on a un décalage qui est en train de se créer entre ces nouveaux outils de gestion de la ville, d'optimisation de la ville. Évidemment, on peut optimiser les parcours, etc. Mais le fond du problème, qui est la nécessité de passer à une autre forme d'économie, une autre forme d'industrie, de l'énergie, des matériaux, et bien là, ça traîne considérablement.
On va partir en Asie dans un instant, justement, pour écouter l'exemple d'une ville que vous connaissez bien, Bernard Stiegler, en Corée du Sud. J'aimerais juste qu'on réponde à Michel, un auditeur, qui nous dit ceci. Plus la ville devient intelligente au sens actuel, plus elle devient fragile, plus elle devient chère, plus elle exclut. La métropolisation a surtout pour conséquence d'appauvrir les villes voisines, désertifier les campagnes, exclure les ruraux. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre?
Bah, je sais pas, c'est pas faux, mais la question.
Pierre Veltz, d'abord la version de Bernard Sigler.
Mais je dirais que la première question, c'était l'intelligence au sens actuel. Bon, c'est ça la question. C'est-à-dire que le sujet fondamental, c'est en quoi parce que la ville peut augmenter l'intelligence collective et donc individuelle et la diminuer. Autant l'un que l'autre. Donc, la question fondamentale, c'est de recréer des dynamiques urbaines, des processus de développement urbain qui potentialise l'intelligence collective. Et là, je voudrais revenir quand même sur ce que disait Pierre Veltz tout à l'heure sur la révolution verte, entre guillemets, enfin disons les enjeux de l'économie verte et le numérique. Nous pensons qu'il faut non seulement les réconcilier, mais les mettre le numérique au service de cela. Et ça, c'est tout à fait possible, mais ça suppose en effet de transformer l'économie en profondeur. transformer la macroéconomie. Juste un mot précis sur ce point pour expliquer ce que nous faisons en particulier avec la Caisse des dépôts et la Société Générale. L'économie actuelle est une économie qui repose sur des indicateurs économiques qui valorisent l'entropie. L'entropie, c'est ce qui consiste à produire, disons, ce qui caractérise l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une croissance de l'entropie. C'est-à-dire, tout à l'heure, on parlait au début de l'émission d'une exoplanète qui s'évapore. Mmh. Ça, c'est typiquement un processus d'entropie. C'est-à-dire que c'est un processus de disparition de quelque chose. Nous pensons, nous, que l'économie doit être mise au service de la lutte contre l'entropie, c'est-à-dire la négantropie. Et ça, ça suppose de mettre en place des processus de valorisation qui changent les règles de comptabilité, les règles d'investissement à la racine et qui s'appuient sur les technologies numériques, mais en y impliquant les habitants. Pourquoi ? Parce que la négantropie, c'est une réalité locale. Et aujourd'hui, l'économie verte, c'est une économie qui doit revaloriser la localité, ce qui ne veut pas dire fermer la localité sur elle-même, mais créer des réseaux de villes local, de localité, des territoires apprenants. Nous, notre programme s'appelle Territoires apprenants contributifs et Pierre Velsouci a travaillé sur des territoires apprenants. C'était d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les territoires doivent réapprendre à produire l'économie locale et à échanger avec d'autres économies locales.
Alors, Pierre Vels, pour répondre rapidement sur le message de notre auditeur tout à l'heure qui disait que la ville excluait précisément les campagnes, désertifiait les régions, excluait justement les ruraux. Vous dites non, c'est faux. Pourquoi?
Oui, ce sera, il faut y répondre en une phrase, c'est difficile, mais les chiffres montrent pas ça. Hein. On a en France des zones qui sont en très, très grande détresse, en très grande difficulté économique, toute la zone nord-est, là, voyez, qui va de la frontière belge jusqu'à Morvan. Il se trouve que c'est une région où il n'y a pas de métropole, ou très peu de métropole. Mmh. Les régions où il y a des métropoles sont des régions, en général, qui vont plutôt bien. Et il y a aujourd'hui, il faut travailler, on y travaille beaucoup. Il y a beaucoup de projets dans ce sens-là, sur la réciprocité entre les métropoles et les territoires environnants. Et c'est pas du tout exclusif. Au contraire, si on prend par exemple le sujet de l'écologie, de l'énergie, on va pas mettre les éoliennes et même le solaire massivement, la géothermie dans le cœur des villes, alors qu'on voit bien que les périphéries... Donc moi je suis très optimiste, il faut qu'on arrête ce discours un peu convenu, qu'on répète en boucle de la ville qui s'oppose aux territoires environnants.
Allez, d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. On poursuit notre discussion dans un instant sur les villes intelligentes.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Je vends des robes de toutes les qualités, en laine, en soie, en fibre de coton, en fil ou en nylon, avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne. Des oignons, des lampions, des voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou rousses et mal élevées, ou grosses et décoiffées, de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes. Je fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Si j'aurais pu, j'aurais aimé vivre à la campagne, vivre à la campagne. Des clochettes, des brochettes, des pâquerettes, des fourchettes, des barils, du persil, des chenilles, des fournils, du crottin, du boudin, du rotin, du terrain, des grands-pères, des grands-mères, des commères, des vicaires, des babouches, des cartouches, des autruches, des baudruches, des conciles, des bacilles, des textiles, des noms.
nautiles, des orages, des bocages, des mirages, des nuages, des contrées, des proscrits, des inscrits, des écrits, des carnets, des cornets, des sifflets, des soufflets, des canons, des crapauds, des capots, des capots, des tricards, des brancards, des canards, du brocard, des courants, des parents, des savants, des arpents, des melons, des teutons, des salons, des boulons, des barclés, des balais, des raclés, des navets, des tambours, des tutours, des contours et des tours, des soupirs, des fichirs, des désirs, des sourires, des frelons, des bourdons, des étrons, des croutons, des pervers, des métères, des lasers et des misères, des tacos, des marmots, des tuyaux, des pocos, des fichons, des torchons, des crayons et du savon, des savates, des tomates, des mille pattes, des cravates, des curés, des greniers.
Et c'était en 69, Je vends des robes, Nino Ferrer.
La tête au carré. Sur France Inter.
Ces cités futuristes ambitionnent aussi souvent de devenir des villes hubs, des centres incontournables au sein du grand réseau global. C'est particulièrement vrai pour Songdo, en Corée du Sud. Un spectaculaire projet de ville d'affaires qui émerge sur 6 km² de terre asséchée gagnée sur la mer Jaune. Avec Cisco et d'autres compagnies de technologie, les Coréens ont construit à Songdo la première U-cité au monde. Une ville ubiquitaire, où tout est connecté. Des millions de capteurs sont disséminés dans toutes les infrastructures, tous les bâtiments, et sont reliés en réseau à un ordinateur central qui gère la plupart des services de la ville pour la rendre la plus efficiente possible. Toutes les données sont collectées et traitées de manière quasi automatique dans un centre de contrôle digne d'un scénario de science-fiction.
C'est un business. Actuellement, nous sommes face à un business de fabrication de villes. Et ces entreprises préfèrent de plus en plus vous vendre des villes entières dont elles gardent ensuite le contrôle.
Voilà, Songdo, donc en Corée du Sud, ville que vous connaissez d'ailleurs, Bernard Stiegler, vous avez eu l'occasion d'y aller. Alors, est-ce que c'est le bel exemple de la Smart City, cette ville intelligente dont vous pourriez rêver?
C'est le contre-exemple.
C'est l'échec total?
Non, je dirais pas l'échec total. Il y a des aspects qui ne sont pas des échecs complets, mais du point de vue de l'habitant, oui, c'est un échec. C'est reconnu par l'université de Séoul qui est...
Comme étant un échec?
Oui, enfin, il ne le dirait pas comme ça en public.
Pour ne pas perdre la face, mais en tout cas...
Mais je suis allé à l'université de Séoul précisément pour parler de ça.
Cette ville est peu fréquentée, peu habitée, elle attire peu les personnes, ou comment on analyse cet échec?
Les personnes qui y sont ne s'y sentent pas tellement bien. Voilà.
Pour quelle raison?
Je pense que ça a été très bien dit, en fait, par la présentation. Alors, Pierre Vell, je disais tout à l'heure, hors micro, que c'est un showroom. Voilà, ça sert à promouvoir une technologie de Cisco en particulier, pas seulement.
Donc c'est une vitrine, ouais.
C'est une vitrine, c'est-à-dire, ça sert, en fait, à faire du marketing à l'échelle planétaire. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres villes comme ça dans le monde. Ouais. Mais voilà, c'est basé sur, comme le disait le reportage, sur un ordinateur central. Ouais. C'est-à-dire que ça coupe toute délibération. Moi, je pense, et d'ailleurs, après-demain, au centre Pompidou, nous verrons un maire d'une petite ville de Los Angeles, dans le bassin minier, nord de la France, 8000 habitants, une ville très très pauvre, mais où la ville va très bien, si je puis dire, malgré sa très grande pauvreté, malgré trois générations de chômeurs après la fermeture des puits de mines de charbon, etc. Et son maire, donc, Jean-François Caron, m'avait fait visiter sa petite ville, il y a 12 ou 13 ans maintenant, il me montrait des capteurs, et il me disait, tu vois ces capteurs-là qui ont été posés par Orange, eh bien, leur but, c'est de convoquer des réunions d'habitants pour les faire délibérer sur l'avenir de leur ville. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'algorithme, il y a des algorithmes, mais pour fournir des dossiers, des données intelligentes. Alors, nous pensons que la ville intelligente de demain, c'est une ville que nous appelons contributive. C'est une ville qui est basée sur la contribution. Tout à l'heure, Pierre Vels rappelait que les GAFA, toutes ces technologies basées sur le smartphone, etc., nous en sommes des coproducteurs, mais nous en sommes des coproducteurs, si je puis dire, passifs, c'est-à-dire ne délibérant pas sur les conditions de notre coproduction.
Donc là, c'est faire en sorte qu'on puisse justement devenir actif.
Et sur la base d'une nouvelle économie qu'on appelle l'économie contributive, basée sur un revenu contributif, avec tout un ensemble de garanties de faire monter l'intelligence collective de l'espace urbain sur toutes sortes de plans, sur tous les plans de ce qui constitue les fonctions d'une ville.
Alors Pierre Vels, encore un mot quand même sur cette ville coréenne, parce que quels enseignements finalement on peut en tirer pour ne pas essayer de reproduire ce type d'erreur? Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème humain quand même dans ces villes, ces smart cities asiatiques.
Bon, moi j'ai pas été à Songdo, mais...
Non, mais vous connaissez le dossier.
Oui, je connais le dossier, mais il y en a d'autres, des projets comme ça, il y a des grands projets aujourd'hui. Au fond, c'est assez simple. Il y a deux philosophies assez polairement opposées hein, sur toutes ces données qu'on va capter. Mais c'est ça, là, quand même. On capte maintenant des quantités de données. On en avait déjà avant. Après, on les met dans des réservoirs et puis on les réutilise pour optimiser les choses. Hein. C'est ça qu'on appelle souvent la Smart City. Il y a deux modèles. Il y a le modèle, effectivement, de la salle de contrôle, qui est le vieux modèle, un peu du rêve panoptique d'une certaine façon. Rio a fait ça par exemple en grand pour les JO avec la circulation, tout était ramené sur IBM. Je pense qu'il aura installé leur salle de contrôle, donc on comprend tout de suite que ça intéresse un certain nombre d'entreprises. Et puis vous avez le modèle collaboratif, horizontal, contributif, comme dit Bernard. Je prends un exemple que vous allez comprendre dans le domaine des transports. Je ne sais pas s'il y a encore des usagers de Citadin. Citadin, vous savez, c'était un site qui avait été fabriqué par des ingénieurs des ponts. Ça marche toujours très bien, d'ailleurs. Hein. On a des caméras, puis vous allez sur Internet, vous tapez Citadin, et ça vous dit l'état de la circulation. Mais ça passe par un truc central, vous voyez. On collecte, et puis on rediffuse. Hein. Et puis, ce qui marche vraiment aujourd'hui, c'est Waze.
Bah oui, c'est ça, c'est une application.
Et Waze, oui, mais
très
Waze.
Très contributive.
Non, mais Waze, c'est totalement contributif. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salle de contrôle.
Ah ouais.
C'est-à-dire, c'est les automobilistes qui renseignent les autres automobilistes sur la présence de radars, de gendarmes, de gilets jaunes, de tout ce que vous voudrez, mais qui fonctionne formidablement. Et moi, ce qu'on devrait faire à l'échelle des villes, je disais tout à l'heure, les villes, c'est ce qui fait la créativité des villes, c'est la rencontre des diversités, c'est la biodiversité culturelle des villes, ça c'est fondamental. Et là, on devrait utiliser beaucoup plus qu'on ne le fait les outils numériques, c'est pour permettre ces connexions. Il y a énormément de tribus aujourd'hui dans les villes qui communiquent mal, vous voyez. Et si on arrivait à mettre ces gens-là ensemble, on ferait des gains fantastiques. Mais c'est une philosophie qui n'a rien à voir avec celle de la salle de contrôle.
Mais ça suppose de transformer assez profondément des infrastructures, des réglementations, enfin voilà.
Pas forcément.
Je pense que, bon, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur l'économie de la contribution, qui est basée sur un revenu contributif, nécessite, voilà, par exemple, l'extension du régime des intermittents du spectacle à d'autres activités. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a à repenser l'articulation entre l'infrastructure technique et les dispositifs et les organisations sociales. Voilà. Et de manière contributive. Aujourd'hui, c'est repensé par les GAFA, qui les contrôlent de l'extérieur et donc qui court-circuitent.
Un des grands sujets, cette horizontalisation hein, qu'il faut renforcer, c'est quelle est la place du public, du politique dans cette affaire hein. Parce que les données, par exemple, bon, un grand problème aujourd'hui de savoir ces données.
Sur la protection.
Pas seulement sur la protection, mais des données publiques, est-ce qu'elles rentrent dans le système du marché? Vous avez quand même énormément de données aujourd'hui qui sont produites par la puissance publique, les municipalités, etc. Bon, là, on a des très, très grands sujets.
Solal nous écrit pour nous dire, juste pour vous dire que je reviens de Chine et je peux témoigner sur la croissance verte au cœur de la stratégie de la Chine. D'après vous, y a-t-il un champion du développement vert dans le monde? C'est-à-dire que la Chine, à la fois grand émetteur de gaz à effet de serre et en même temps, avec des villes durables, très importantes.
Pour une raison, je pense, majeure, qui est que la question de la pollution de l'air en Chine et de l'eau est devenue une question politique majeure. C'est-à-dire, c'est le gouvernement, le régime chinois sait qu'il ne pourra pas continuer s'il ne règle pas ce problème. C'est pour ça qu'ils se mettent aussi en pointe sur la voiture électrique, sur beaucoup de sujets. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les principaux fabricants de batteries dans le monde. Et notre industrie à nous va être dépendante des importations chinoises.
Avec les métaux rares en particulier, qui ont besoin de...
J'enseigne en Chine moi-même, et sur ces sujets-là. Et donc, en effet, la Chine est extrêmement mobilisée sur ces questions. D'ailleurs, ce colloque, nous l'avons aussi préparé par un séminaire avec des Chinois.
Alors que ce sera demain hein, et mercredi, Bernard Stiegler. C'est ouvert au public, il reste quelques places. Il faut aller sur le site du Centre Pompidou.
Voilà, à l'IRI, sur le site de l'Institut de Recherche et Innovation.
IRI, pour parler donc de l'intelligence des villes et de cette nouvelle révolution urbaine. Et vous avez pas mal de scientifiques d'invités hein, qui vont vous trouver.
Oui, on parlera d'abord de ce qu'on appelle les nouvelles infrastructures, avec beaucoup de gens qui viennent des États-Unis et d'Angleterre, avec Daniel Kaplan également, bien connu en France. On accueillera Saskia Sassen sur les rapports entre ville, réseau, localité, notamment, et beaucoup d'autres personnes sur ce thème. Ensuite, nous rentrerons dans la nouvelle révolution urbaine, dans le détail, qu'est-ce que c'est que le Building Information Modeling, etc. Et enfin, nous étudierons des expériences de terrain en Équateur, au Maroc, à Pleine Commune, évidemment, et à Los Angeles.
C'est donc demain et mercredi au Centre Pompidou, autour de l'intelligence des villes. Merci beaucoup à vous. La société hyper industrielle, c'est au seuil. Pierre Veltz, vous êtes auteur de cet ouvrage. Et Bernard Stiegler, qu'appelle-t-on penser aux liens qui libèrent?